Là, les points sur lesquels François a terminé, donc vraiment les conceptions de l'écriture, l'écriture processus, l'écriture lieu de tâtonnement, d'essai, de pas un produit fini, mais quelque chose qui se travaille, sur lequel on revient. Je le partage tout à fait, c'est pour ça qu'on a fait aussi ce cadre-là à deux voix. Donc je ne l'avais pas dit pour équilibrer les... qu'il n'y ait pas de répétition pour vous, hein, mais derrière l'approche de la stéréotypie en écriture, il y a bien tout ça. D'ailleurs. On partage tous les deux le même cadre de la génétique textuelle. Bon, voilà. Alors, moi, je continue avec... après la question suivante, donc je reviens un petit peu, je me recentre sur le stéréotype, hein, et pour vous présenter le travail qui a été fait sur dans les classes, avec les enseignants. Parce que si d'un point de vue théorique, on a évoqué quelques bonnes raisons de faire du stéréotype un outil d'enseignement et un outil d'apprentissage de l'écriture, après, la question... pour le terrain, elle reste complète, c'est-à-dire concrètement, comment le stéréotype peut devenir un outil dans la classe, un outil pour les enseignants, c'est-à-dire un outil susceptible de nourrir les compétences professionnelles des enseignants et un outil d'apprentissage pour les élèves, donc susceptible d'aider les élèves à développer des compétences scripturales. En gros, c'est ça. Donc, il y a vraiment les deux niveaux. Bon. Et pour répondre à une telle question, pas 36 000 solutions, aller dans les classes et demander à des enseignants, qui deviennent des collaborateurs de la recherche, de prendre tous ces travaux-là sur le stéréotype et d'en faire quelque chose qui leur paraît faire sens pour leur pratique professionnelle, avec leur style pédagogique, et qui leur paraît faire sens pour leur classe, avec le profil des élèves, les besoins des élèves. Donc du coup, ça donne quoi ? Eh bien, un protocole et une démarche où on cherche à analyser comment un travail scolaire, à partir de savoir sur le stéréotype, peut enrichir les pratiques des enseignants et des élèves. Comme je vous l'ai dit concrètement, je travaillais à ce moment-là à l'UFM d'Agen, donc j'ai demandé aux maîtres formateurs et à des enseignants de la circonscription si le projet les intéressait et s'ils étaient d'accord soit simplement de participer au projet, soit même d'essayer dans leur classe d'opérationnaliser avec après tout le protocole où il faut filmer, prendre toutes les données. Bon, tous les enseignants n'acceptent pas d'être filmés. Ce qui paraît compréhensible. Donc voilà. Donc du coup, il y avait à la fois des enseignants qui participaient au groupe de travail parce que la question les intéressait, et puis des enseignants qui ont accepté d'aller plus loin et vraiment d'opérationnaliser dans leur classe avec tout le protocole de scientifique de relever des données. Les deux enseignants, donc il y a deux enseignants que j'ai suivis dans leur classe, hein, c'était des enseignants, je voulais être deux enseignants de la même année, ou en tout cas du même cycle, pour pouvoir comparer le travail. Finalement, c'était deux enseignants de CM2, avec au final un dispositif assez simple. Donc, on constitue une équipe d'enseignants collaborateurs qui sont intéressés par le projet. On commence forcément par un temps de formation sur la question de la stéréotypie, parce que voilà, forcément, c'est pas quelque chose qu'on lit tous les quatre matins. On en discute de façon partagée, donc avec les enseignants qui vont opérationnaliser dans les classes, mais aussi avec d'autres qui amènent leurs pratiques, leurs questions. Donc ça bouillonne, hein, ça. Puis on opérationnalise dans les classes. Hein, donc on essaye dans la classe d'en faire un outil qui fait sens pour l'enseignant et pour les élèves. Et après, on analyse collectivement d'abord le travail, c'est-à-dire que les enseignants qui ont utilisé le stéréotype dans leur classe viennent présenter leur travail aux autres enseignants et on discute, on voit ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc c'est pas du tout, du coup, le travail des enseignants, c'est pas du tout des séquences modèles à reproduire. C'est vraiment du travail, des séquences où on tâtonne, on essaye. Souvent les enseignants disaient, on sait pas trop où on va. Je disais, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est pas du tout, donc justement, de faire une séquence parfaite. C'est d'essayer et d'analyser. Hein. Du coup, les résultats là, que je vais vous présenter proviennent autant de l'analyse, de la discussion, mais tiens, mais ça, là, du coup, je vois que j'aurais peut-être pu essayer comme ceci, comme cela, que de vraiment du travail fait dans la classe. Et puis après, donc, il y a l'analyse collective, et puis forcément l'analyse du chercheur qui, seul devant son ordinateur avec toutes les données, essaye d'en faire quelque chose de tirer hein, tous les fils, mais avec toujours une relecture des enseignants qui, pour vérifier que mes interprétations, parce que là du coup on est souvent dans l'interprétation quand même, doivent coller à leur expérience, à leur ressenti, hein, donc il y a toujours cette vérification là. Bon. Donc c'est pas non plus un chercheur solitaire qui est coupé des enseignants avec qui il a travaillé. Voilà, pour le dispositif et la présentation. Peut-être encore juste vous dire, parce que c'est important pour la suite, que les enseignants ont choisi, ils avaient énormément de liberté, hein, puisque c'était un protocole exploratoire, ils ont choisi de travailler le stéréotype en poésie, en écriture poétique. Ce qui, moi, au début, m'a... Je peux le dire sidéré, parce que je pensais qu'ils allaient prendre un genre beaucoup plus normé, parce que ça allait être plus simple, comme le conte. Mais du coup, c'était extrêmement intéressant, parce que choisir de travailler le stéréotype en écriture, ça amenait des tas de considérations et de problématiques, dont celle précisément que tu évoquais, celle de la variation, de la création, de l'invention, de l'imaginaire, de l'imagination, du sens esthétique. Hein, et du coup aussi, ce que moi je vais vous dire, c'est d'abord valable pour l'écriture poétique, même si après je pense qu'on peut tirer des fils pour d'autres choses. Je vais pas vous faire le déroulé précis de toutes les séquences. Si ça vous intéresse d'avoir vraiment de savoir précisément ce que les enseignants ont fait, de nouveau dans la bibliographie, je vous ai mis un site, une référence de site internet où la thèse est en ligne et il y a vraiment tout le descriptif par activité, toutes les productions des élèves. Donc vous pouvez vous servir, consulter. Sans souci. Moi, je vais simplement vous présenter les deux séquences sous l'angle des objectifs visés pour après analyser des résultats. Donc, quand ces enseignants ont choisi d'opérationnaliser le stéréotype, c'était avec ces objectifs-là. Pour le premier enseignant, on va dire séquence 1, l'objectif global pour lui, c'était de développer la compétence d'écriture poétique des élèves et d'ouvrir les élèves à une culture ou à une pratique littéraire plus diversifiée en favorisant un traitement langagier plus conscient et relativisé des stéréotypes liés à la poésie. En gros, ils trouvaient que quand les élèves parlaient de poésie, ben c'était toujours les rimes, les vers, les strophes, mais qu'ils n'avaient pas beaucoup d'ouverture sur d'autres formes poétique. Donc là, c'est un enseignant qui va plutôt travailler sur la forme générique. Donc ça, c'était son objectif global qui a été travaillé en trois objectifs plus précis, hein, que vous avez en dessous. Un, d'abord vérifier la présence chez les élèves d'une vision stéréotypée de la poésie, parce que c'est ce qu'il lui semblait, mais il fallait quand même le vérifier. Puis, traiter scolairement les stéréotypes relevés, hein, donc il avait relevé des tas, par exemple, un poème doit avoir des rimes, ce genre de stéréotype. Ben après, le traiter, notamment par la lecture de corpus de poèmes très diversifiés, justement, qui avaient pour objectif de remettre en question cette représentation de la poésie. Puis, troisième objectif plus précis, mais transformer tout ce travail sur les stéréotypes, sur la diversité poétique et sur la notion de stéréotype, parce que dans cette classe-là, l'enseignant a vraiment travaillé aussi sur la notion. Voilà ce qu'il y a dans la classe. On appelle ça stéréotype. Du coup, qu'est-ce qu'un stéréotype? Bon, c'est un choix. C'est eux qui choisissaient la manière dont ils le travaillaient. Hein, donc lui voulait travailler la notion pour après aussi la réutiliser dans d'autres disciplines. Hein. Voilà pour le travail donc pour cet enseignant-là. Dans l'autre classe, l'objectif global, c'était pour l'enseignant de favoriser la production imaginative, c'est son terme où je l'ai respecté, de poèmes sur le thème de la mer. C'est un enseignant qui travaillait beaucoup par projet. Et là, il y avait un projet pour l'année de travail sur le thème de la mer, avec après un séjour prévu à Arcachon. Enfin bon. imaginez. Et donc lui, il inscrivait vraiment l'opérationnalisation dans ce cadre-là. Du coup, cet objectif-là se déclinait en 3 sous-objectifs plus précis. 1, réaliser une écriture diagnostique, un petit peu comme dans l'autre classe, hein, pour voir s'il y avait stéréotypie dans l'écriture et à quel niveau la stéréotypie était située. 2, faire émerger le caractère stéréotypé dans l'écriture. Hein. Donc ici, c'était le caractère stéréotypé de la représentation de la mère chez les élèves et son effet sur l'écriture. Pour mettre en place une écriture véhiculant un autre point de vue sur la mère. Là, cet enseignant n'a pas travaillé sur la forme. Enfin, il l'a travaillé, mais pas en termes de stéréotypie, mais il a travaillé sur le contenu. Hein. C'est-à-dire qu'il avait remarqué que quasiment tous les élèves, quand on leur parle, quand on leur demande d'écrire un poème sur la mère, mais ça fait le texte que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Plage, soleil, matelas pneumatique. Vacances idéales étaient à la mer, en gros, bon. Qui se retrouvaient dans tous les textes ou quasiment des élèves. Puis, 3e sous-objectif, faire peu à peu produire des textes. Donc, on est bien sur une logique de réécriture, de faire autrement, hein, comme tu avais dit. Pas spécialement faire mieux, mais là, vraiment, dans cette classe-là, faire autrement. Faire peu à peu produire des textes plus clairement identifiables comme textes poétiques, avec l'idée que le thème allait être traité différemment, de façon plus imaginative, et que donc on allait avoir des écritures plus poétiques. Juste peut-être encore un mot sur le profil des classes. La classe 1 était une classe, on peut dire... relativement privilégiée, globalement assez, vu de l'extérieur ou même décrite par les autres collègues, assez homogène, classe d'une école d'application, pour vous donner un petit peu le... Et l'autre classe, c'était 2 classes d'Agen, du centre-ville d'Agen, très, avec un public très très hétérogène, des enfants issus du voyage, des gamins qui arrivaient en cours d'année, 2 très bons élèves et des élèves en grande difficulté scolaire, donc finalement 2 classes avec des profils assez distincts. Voilà, alors j'en viens à quelques résultats. Et un des résultats, moi, qui me paraît intéressant de tout ce travail, c'est puisqu'on est sur l'idée de comment le stéréotype peut devenir un outil, mais qu'on n'est pas sur l'idée, voilà des séquences modèles à reproduire pour que le stéréotype devienne un outil. On a plutôt essayé de voir quelles étaient des conditions ou des modalités importantes pour que le stéréotype puisse devenir un outil d'écriture créative dans la classe. Et là, on a, je dis « on » parce que c'est mon analyse de concertée avec les enseignants, on a dégagé 10 conditions importantes, forcément pas exhaustives, parce que si c'était la clé magique de la réussite, ce serait trop facile, évidemment. Mais donc 10 conditions importantes qui, dans les 2 classes, aux yeux des enseignants, et à mon avis aussi, risquait de faciliter ce travail sur le stéréotype. La première condition, c'était de ne pas considérer les phénomènes de stéréotypie comme des produits totalement figés. Et là, ça correspond bien avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que dans les données de la classe, et ça venait surtout dans l'analyse fine des données, on remarquait que selon l'activité, les élèves ne disaient pas la même chose, soit sur ce qu'un poème, soit sur le thème de la mère. Par exemple, en situation de lecture d'un corpus, en situation de débat oral de classe ou en situation d'écriture individuelle, un élève allait donner des critères différents pour caractériser la poésie. C'est-à-dire que seul en écriture, il allait dire « un poème, ça doit avoir des rimes », en situation de débat, il allait pouvoir dire ça doit avoir des rimes, mais ça doit aussi frapper ou toucher le lecteur. En situation après de lecture, il allait dire ben, peut-être que ça doit avoir des rimes, mais pas toujours. Donc on voyait vraiment des variations selon les activités proposées dans la classe. La deuxième condition découle de la première. C'est vu cette cette variation, même si la stéréotypie est quelque chose de très stable, hein, mais c'est quand même cette variation présente, il a paru clé pour les enseignants de prendre en compte l'impact sur l'écriture de l'effet, je vais commenter, homogénéisant et hétérogénéisant de la stéréotypie. Homogénéisant parce que, au premier coup d'œil, quand on prend les productions écrites des élèves, les productions initiales, par exemple celles sur le thème de la mère, c'est vrai que ce qui frappe, c'est que on a l'impression que tous les gamins font la même chose. En gros, c'est ça. Donc, on voit bien que comme on connaît, on partage quelque part ce stéréotype sur la mer, les vacances idéales d'été, le soleil, la plage, mais forcément, et que c'est très redondant dans les écrits des élèves, la première chose qui revient, c'est un effet d'homogénéisation. Donc, les enseignants, au premier coup d'œil, hein, disaient « tous les élèves ont fait la même chose ». Donc on voyait bien une homogénéisation parce que quand on regardait dans le détail, il y avait de la variation qui était présente dès les premières productions. On n'était pas du tout sur des choses aussi uniformes. Hein. Mais c'est vrai que le stéréotype a tendance à gommer les différences, les nuances entre les textes. Et par rapport à ces nuances et à cette hétérogénéité en écriture, dans la première classe, qui était pourtant a priori une classe très homogène, donc l'enseignant me la décrivait comme une classe très homogène, bon, peut-être avec un ou deux élèves qui avaient un petit peu plus de difficultés, mais quand même, au final, une classe, même quand on assiste au travail, aux leçons, on a quand même l'impression d'une classe qui avance ensemble. Hein. Donc décrite par l'enseignant de cette façon-là, décrite aussi par les autres collègues comme une classe assez homogène. Et pourtant, quand on regarde les productions écrites et qu'on les confronte avec, parce qu'il y avait après tout un protocole avec des questionnaires, des entretiens, on voit que le traitement du stéréotype en écriture, dans les premières productions, il y avait 5 traitements différents chez les élèves. D'abord, le premier traitement, c'est que le stéréotype ou la stéréotypie convoquée au moment de l'écriture bloque ou empêche explicitement l'écriture. Là, c'est le cas d'un élève qui n'arrive pas à produire un poème et qui commente sa non-production en disant « j'y arrive pas, j'ai pas d'idée, je trouve pas de rime ». Donc c'était vraiment pour lui, je trouve pas de rime, je devrais imaginer quelque chose qui a des rimes, j'arrive pas à trouver des rimes, et comme pour moi je suis obligée d'avoir des rimes, donc c'est bien la leçon, mais du coup je produis pas. Donc là on voit bien un effet complètement inhibant du stéréotype sur l'écriture. Le deuxième traitement constaté, c'était que le stéréotype ou la stéréotypie qui était connu et partagé n'est pas convoqué au moment de l'écriture. Ce qui n'empêche pas l'écriture, donc l'élève écrit, mais après, quand elle commente son texte, elle dit tout compte fait, donc une élève qui produit un texte, donc en fait, c'est le texte, c'est le premier qu'elle a en deux. Le soleil est chaud comme nos oreilles, le soleil brûle sur nos lèvres, le soleil enflamme nos poumons. L'élève produit ça, et puis elle dit tout compte fait, je pense pas que c'est un poème parce qu'il n'y a pas de rime. Donc du coup, on voit bien qu'on est sur une stéréotypie qui est connue, partagée, qui n'est pas convoquée au moment de l'écriture, mais qui après empêche la reconnaissance, ou en tout cas entrave la reconnaissance de la production comme poème. Le troisième cas de figure, c'est que le stéréotype convoqué non explicitement... Je ne peux pas vraiment dire non consciemment, parce qu'on ne sait pas trop, on n'est pas dans la tête des élèves. Donc, je veux dire non explicitement au moment de l'écriture, soutient ou facilite l'écriture. Donc, ça, c'est une élève qui va dire, regardez, c'est le texte 3, la galaxie, j'aimerais sortir de ce lit pour aller visiter la galaxie, j'aimerais sortir de ce lit pour aller visiter toutes les villes et les pays où il y a peu de vie dans cette galaxie, j'aimerais sortir de ce lit pour aller voir toutes les planètes qui existent dans cette galaxie. Et c'est une élève qui dit donc que son texte pour elle est un poème, mais elle justifie pas pourquoi. Elle voit pas, elle sait pas trop. Elle dit qu'elle a utilisé des rimes ou pas. Donc c'est pas, on peut pas dire que ce soit En tout cas, c'est pas explicité. Les critères de stéréotypie sont pas explicités. Le quatrième cas de figure, ben, c'est au contraire des élèves qui écrivent des poèmes avec des rimes et qui disent explicitement mon texte est un poème parce qu'il y a des rimes. Alors, je prends les rimes, mais pour certains, c'était des vers, des strophes, une signature. Et le cinquième cas de figure, ce sont des élèves qui convoque explicitement au moment de l'écriture le stéréotype, mais qui déjà le met à distance. Donc c'est la production 5, hein. Un élève qui écrit ceci, intelligent comme Einstein, motivé comme le petit Albert, rapide comme une gazelle, beau comme un gentleman, adoré comme Brad Pitt, et qui dit explicitement, il n'y a pas de rime, mais c'est pas obligatoire. Donc là, on voit déjà une posture de mise à distance de ce critère-là. Bon, vous voyez, pour quelque chose qui paraît homogène, c'est pas mal quand même. Hein, et du coup, on voit bien que si l'enseignant passe à côté de toute cette variation qu'il y a au départ chez les élèves, bien, il risque de mettre en place un scénario très très fermé et de passer et donc du coup de laisser de côté certains élèves, hein, et ça attirait aussi notre attention sur le fait que si l'enseignant avait été simplement parti d'une situation où il avait demandé aux élèves, ben tiens, pour vous, qu'est-ce que c'est un poème, ou simplement d'une situation initiale où il aurait fait écrire, hein, et puis il n'aurait pas fait commenter les textes, on n'aurait pas vu toutes ces modifications, toute cette hétérogénéité. D'où peut-être l'idée que si on veut vraiment saisir de façon diagnostique à l'initial la présence de stéréotypie, c'est peut-être intéressant de croiser le déclaré sur l'écriture, hein, ce que l'élève dit de son écriture, ou ce que l'élève dit du genre à produire, et ce qu'on lit dans l'écriture des élèves. La troisième condition, c'est traiter explicitement et spécifiquement le stéréotype pour le rendre visible. Parce qu'il faut quand même voir qu'avec le stéréotype, on est face à un phénomène qui avance masqué. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'est pas en train de se dire ben « là, j'utilise un stéréotype ». Parfois, on l'utilise et on sait bien que c'en est un, mais le plus souvent quand même dans l'usage, on se rend pas compte, voilà. Et donc du coup on voit bien la nécessité pour que les élèves par exemple prennent conscience que la rime est aussi importante pour eux et que ça relève d'un stéréotype, hein, il faut bien à un moment le rendre explicite, le rendre visible, le montrer. Et donc ça peut faire ceci dans les échanges de la classe. Oui, voilà, vraiment c'est très clair. La mer, ça fait penser aux vacances et à la chaleur. Et en fait, pour tout le monde, c'était ça. Alors dit d'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins poétique, avec des mots plus ou moins bien choisis, avec tout ce qu'on veut. Mais ce qui revenait toujours, c'était cette approche de la mer qui était liée aux vacances, au soleil, au loisir. Et donc, pour parler de cette notion de stéréotype, on a essayé, donc c'est l'enseignant qui commente, hein, on a essayé de la dégager de cette façon-là. Stéréotype, c'est l'idée de, finalement, on a tous la même approche, on a tous la même vision de la mer, parce qu'on est tous des petits agenais, et que la mer, pour nous, bah, c'est seulement juillet, août, donc on l'associe fatalement aux vacances, au soleil, etc. Ou alors le deuxième enseignant, pourquoi je vous dis que dans la classe, là, pourquoi je dis que quand vous avez écrit des poèmes, tous vos poèmes sont des... Enfin, pas tous, mais pour la plupart d'entre vous, c'est des stéréotypes. Pourquoi ? Et les élèves commentent, donc après déjà un certain travail, hein, parce que c'est des rimes, parce qu'on dit tout le temps la même chose, parce que on s'est attaché aux rimes, parce que c'est pas original, ça se répète tout le temps. Bon, on voit, ils sont en train de construire, hein, donc c'est pas... Là, on voit bien que la conscientisation est en train d'opérer, hein, on n'est pas sur quelque chose de fini. La quatrième condition en modalité qui nous a semblé importante, c'était d'ancrer le travail de la stéréotypie dans une approche dialogique de l'écriture dans ce qu'on pourrait appeler aussi un va-et-vient qui fait coexister la dimension collective externe et la dimension singulière interne. Ce qui revient un petit peu, je pense, à ce que tu as dit, entre la place qu'on laisse au sujet scripteur, lecteur-scripteur, hein, et puis la dimension collective, les codes existants. Quand je dis ancrer le travail de la stéréotypie dans une approche dialogique de l'écriture, c'est que finalement, en classe, en tout cas là avec les enseignants, ils étaient assez souvent sur des exercices où on reprenait des textes, on écrivait à la manière de... un petit peu comme tu l'as commenté. Hein. Donc on se basait sur des textes existants pour produire, pour faire. Donc finalement, tout ce travail-là de reprise, de réutilisation, il est extrêmement présent dans les activités d'écriture de la classe. Mais on voit bien que certains, si les enseignants pour la plupart en sont totalement conscients, certains élèves sont toujours sur l'idée de mais moi je peux pas reprendre des choses, je dois être dans l'imagination totale, dans de la singularité, alors que d'autres vont se permettre les reprises et que du coup ils vont avoir beaucoup plus de facilité à produire que les autres. Ils vont permettre les reprises tout en comprenant qu'ils peuvent très bien aussi y ajouter la dimension singulière. Donc on n'est pas sûr de la pure reprise. Mais donc du coup, c'est quelque part permettre aux élèves d'avoir une conception de l'écriture et plus globalement de la langue comme d'un matériau dont on se sert, qu'on reprend, qu'on transforme, qu'on modifie, hein, cette conception-là, développer cette conception-là de la langue et de l'écriture. La cinquième condition, c'est construire une valeur neutre ou fonctionnelle aux stéréotypes, et non pas une valeur négative ou péjorative. Et c'est vrai que c'est pas simple pour les enseignants, parce que quelque part, pas seulement pour les enseignants, même parfois pour moi dans le travail, parce que l'acception courante, elle reste là, même si on connaît les travaux. Si, voilà, on peut pas faire fi de cette première représentation qu'on peut avoir de l'objet stéréotype. Hein. Mais donc, après, il y a tout un travail dans la classe pour essayer de se détacher de cette acception péjorative et d'en faire quelque chose de plus neutre ou fonctionnel. Un exemple, le maître qui dit, donc dans les discussions dans la classe 1 avec les élèves, oui, ou alors plus simplement, ça peut aider à quoi un stéréotype ? Donc on voit bien, on essaie de construire une utilité, hein, positive au stéréotype. Une élève, Mathilde, ça peut aider à écrire un poème. Ça reste très vague, évidemment. Le maître, ça peut aider à écrire un poème, ça peut aider à être plus sur l'écriture. Ça peut être plus sur l'écriture, vous faire aller facilement dans l'écriture. En revanche, ça peut être aussi un frein. Et là, de nouveau Mathilde, dans l'écriture. Une autre élève, parce que quand on voyait que dans tous les poèmes il y avait des rimes, il y avait certains qui n'arrivaient pas à écrire parce qu'ils croyaient qu'il fallait absolument des rimes. Hein, donc vous voyez bien de nouveau le travail de conscientisation qui opère. Et le maître, voilà, donc ça peut être un frein à cause de ça, puis ça peut être aussi un frein à l'originalité. Et là, je n'ai pas trop détaillé, mais l'enseignant était vraiment en tension, cet enseignant-là, dans la classe, et il l'a remarqué après, avec cette idée d'originalité qui, pour lui, restait très forte, mais qui, du coup, a bloqué certains élèves. Et ça venait d'un geste professionnel très simple dans la classe, qui est, je vous dis ce que c'est, on utilise le mot stéréotype. Tiens, puisque c'est un mot que vous ne connaissez pas, les élèves, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le dictionnaire. On prend le dictionnaire et on va chercher le sens, la signification du mot stéréotype dans le dictionnaire. Mais qu'est-ce que vous trouvez dans un dictionnaire sur le stéréotype, idées ou représentations dénuées d'originalité, enfin ce genre de choses. Et donc du coup, le travail de l'enseignant, enfin cet enseignant qui avait vraiment, qui était parti dans sa leçon, hein, vraiment avec l'idée du stéréotype qui pouvait construire des choses, à partir du moment où il y a l'usage du dictionnaire qui est rentré dans la classe, il y a eu un espèce, voilà, comme vous faites, hein, quelque chose qui est retombé en termes, ben tiens, quand même, ça pose problème, le stéréotype pour l'originalité. Et donc, il y a eu une espèce de tension qu'on a analysée, évidemment, après. Je vais passer à la condition 6, qui est de ne pas chercher à casser le stéréotype, mais plutôt de le mettre en mouvement. Là, de nouveau, dans la première classe, l'enseignant, quand il commentait ses pratiques, disait régulièrement, moi, dans la classe, j'ai cherché à casser le stéréotype des élèves. C'est-à-dire, il pense qu'un poème doit avoir des rimes, des vers, des strophes. Ça, vraiment, il faut le casser pour remplacer cette représentation-là par autre chose. Bon, ça, c'était son déclaré. Mais en même temps, quand on regardait le travail qui était fait dans la classe, c'était pas de l'ordre du casser la représentation. C'était plutôt de l'ordre de la mettre en mouvement, la relativiser, la nuancer, se dire que, c'est vrai, certains poèmes avaient des rimes, des vers, des strophes que dans un contexte historique, à une période de l'histoire, c'était très important, mais peut-être moins dans les productions poétiques contemporaines. Donc, c'était plutôt vraiment l'idée de on remet tout ça en mouvement dans les textes qu'on lit, dans les représentations, mais aussi dans l'écriture, où dans l'écriture, on ne va pas casser le stéréotype en disant on ne peut plus utiliser des rimes pour écrire, mais plutôt on va le mettre en mouvement, donc jouer sur la rime, utiliser la rime, plus autre chose, plus d'autres critères de poéticité, ce genre de choses. Puis, au final, on s'est dit aussi que casser, et certains élèves le disaient clairement, de toute façon, y a toujours des gens qui vont penser ça. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas vraiment le casser, parce que par ailleurs, il y a quand même ces représentations-là, elles existent, elles ont des espaces de légitimité. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment supprimer ces stéréotypes-là, mais plutôt leur amener des espaces de légitimité ou des nuances. La septième condition, c'est enseigner un traitement dominant de la distanciation. Je vais un tout petit peu détailler ce point-là. Ce qui était assez frappant dans le travail des enseignants, c'est que dans les deux classes, puisque l'objectif c'était un travail sur l'imaginaire, l'imagination, sur la diversité poétique, au final, les enseignants ont mis en place des tas d'opérations, je ne sais pas si le mot opération c'est le meilleur mot, mais des tas de démarches qui invitaient ou permettaient les élèves à prendre distance du stéréotype. Et moi, cette notion de distance ou de distanciation après coup, elle me paraît très intéressante, et d'abord parce que quand on lit des choses sur la lecture ou l'écriture, notamment littéraire, mais pas seulement, on trouve souvent cette idée-là de prendre distance, de distanciation. Alors après, j'ai remarqué que ce n'était pas du tout seulement propre à la littérature, que ce soit en sciences de la communication, on le retrouvait, en psychologie du développement, on retrouve cette idée de la distanciation. Donc que c'est finalement un processus extrêmement général, une espèce de posture, d'approche du réel qu'on retrouve un petit peu partout, et qui est notamment en psychologie du développement posée comme un des éléments qui différencierait très fortement les élèves en situation de réussite scolaire et les élèves en situation d'échec scolaire. C'est-à-dire que implicitement, le plus souvent, l'école demande à l'élève dans ses apprentissages de prendre distance avec des représentations, des connaissances qu'il a par ailleurs. Et que l'élève qui réussit à l'école est capable de faire ce travail de distanciation. Que l'élève qui ne réussit pas à l'école reste dans ses modes, je veux dire, de façon globale, ses modes de dire, de faire, de penser, non attendu à l'école. Et que ça aussi, c'est quelque chose qui a un ancrage social très fort. C'est-à-dire que quand on prend d'une part les enfants qui sont issus de milieux, alors c'est pas spécialement favorisé, hein, mais c'est plutôt des milieux soit culturellement ou socialement favorisés, on est généralement sur une pédagogie où on explicite, on commente. Et là, enfin, les exemples que j'ai lus, c'était assez sidérant. Ça partait du biberon ou de l'observation de la télévision dans les maisons ou dans ces milieux-là, mais le gamin qui allait regarder la télévision, qui allait vouloir utiliser la zapette, qui allait pas y arriver, ben, le parent allait directement commenter. Donc mettre à distance le geste par le commentaire. Ben, tu vois, si tu fais comme ça, ça va pas aller. Donc il permet à l'enfant, par le langage, par l'explication, de mettre à distance l'action, hein, et de comprendre pour mieux agir. Alors que dans d'autres milieux, on va avoir ce qu'on appelle une pédagogie beaucoup plus directive. C'est-à-dire, fais pas ça. Sans, tu peux pas faire ça, c'est interdit, touche pas, hein. Sans mise à distance du geste et de l'action, notamment par le langage. Bon. Voilà. Alors du coup, cette idée de distanciation, je l'ai regardée un peu plus finement en me disant, mais concrètement, comment les enseignants dans leur classe travaillent cette distanciation au stéréotype? Et j'ai pointé sept opérations de distanciation qui ne sont pas du tout exhaustives, qui se croisent, hein, dans le travail, à mon avis se renforcent souvent, et qui, au final, me semble-t-il, aident les élèves à prendre distance par rapport au stéréotype. Alors la première, c'est relativiser la portée du stéréotype. Par exemple, arriver dans une sorte de définition d'approche commune du poème dans la classe a amené les élèves à dire: un poème est souvent constitué de strophes, de vers et de rimes, un poème n'a pas forcément de sens mais est souvent organisé, il a parfois un titre et la signature de l'auteur. On voit bien que la portée du stéréotype est relativisée. Un autre exemple dans l'autre classe: nous, tous les petits déjeuners, chaque fois qu'on parle de la mer, on voit vacances, plage, mer. Un élève: mais c'est pas toujours vrai. Et l'enseignant reprend: se baigner, loisir, repos. Seulement, voilà le problème, c'est qu'au bord de la mer, il fait pas soleil tout le temps. Un élève: il pleut parfois. Un autre élève: mais ceux qui habitent à côté, ils s'ennuient, par exemple. Et le maître: ceux qui habitent au bord de la mer, ils ont pas la même remarque que nous, comme on le fait là. Et puis un autre élève enchaîne avec: ils habitent à la montagne plutôt. Enfin, bon, on voit bien, hein, que on est en train de relativiser cette conception là de mer, vacances, cette association figée. La deuxième opération de distanciation pointée, c'était, elle est liée à la précédente, parce que souvent on relativise en multipliant. Donc c'était multiplier les indices de poéticité ou multiplier les points de vue sur le thème ou sur la poésie. De nouveau un exemple, l'enseignant, pour multiplier, ici l'exemple c'est sur le thème, va amener les élèves à envisager différemment le thème de la mer. Et donc la consigne va être celle-ci. Alors justement, je vais vous donner un petit travail. Je vais vous demander d'imaginer quelle situation. Alors déjà, je vais vous demander qui pourrait avoir une relation différente de la nôtre avec la mère. Vous allez essayer de lister des personnages qui pourraient avoir un rapport différent d'une autre avec la mère. Et pourquoi ce rapport serait différent? Et du coup, nous, chaque fois, comme on associe les vacances, etc., à la mère, c'est du positif. C'est que des sentiments plutôt agréables. Donc, si vous essayez de lister des personnes, des situations qui sont différentes de la nôtre par rapport à la mère, essayez à côté, chaque fois, de donner des sentiments différents. Donc ça va être la base de la réécriture. Hein, La troisième opération de distanciation, ça va être de déplacer l'attention, pas vers de multiples points de vue, mais vers un autre point de vue. Et c'est ce qu'on voit dans l'écriture finale, toujours dans cette classe-là, où on a trois traitements textuels différents des stéréotypes. Là, c'était les stéréotypes thématiques. Donc, quand on demande aux élèves, hein, de déplacer leur attention de la mer, vacances, plage, soleil, vers un autre point de vue qu'ils vont choisir, donc par exemple la mer pour un enfant qui a vécu le tsunami, hein, ou la mère pour un dauphin, ou la mère pour un pêcheur. Hein, Soit, au final, dans l'écriture, on obtient un maintien prédominant des stéréotypes initiaux, c'est-à-dire qu'il y a des gamins qui n'ont pas réussi vraiment à prendre distance. Hein. Soit un effacement massif des traces de stéréotypes initiaux au profit à ce moment-là d'autres représentations ou ce qu'on appelle des représentations inversées. Donc c'était pas la mer, au lieu de devenir vacances, ça devenait la catastrophe, la peur de la mer, les dangers de la mer, les dents de la mer en gros, hein. Enfin bon, les requins. Donc du coup, forcément, on va retomber, on va mobiliser d'autres stéréotypes. Hein. Ou alors, on trouvait des allusions ou des recours aux stéréotypes qui étaient plus explicites, mais de l'ordre précisément de la variation. On renversait le stéréotype, on le mettait, mais par alternance avec autre chose, on le déplaçait. Donc, c'était toujours la mer, les vacances, mais c'était le point de vue du dauphin. Et du coup, ça créait des choses... je veux dire plus imaginative, je garde le terme de l'enseignant. On avait donc des usages variés, pour reprendre ton terme, de stéréotypes initiaux, et aussi l'activation d'autres stéréotypes. Du coup, on voit bien que quand on essaye de déplacer l'attention ou de prendre distance par rapport à un stéréotype, c'est pas pour autant qu'on échappe aux stéréotypes, parce qu'on peut très bien retomber dans d'autres stéréotypes, et on voit que ces stéréotypes-là restent un outil d'écriture. Donc on voit bien qu'il y a deux usages là dominants du stéréotype comme outil d'écriture. Un stéréotype mis à distance, et puis un nouveau stéréotype qui va permettre une nouvelle écriture un peu plus imaginative ou créative. Donc là, c'est bien ces jeux de distanciation-participation. On voit bien que la distanciation n'empêche pas du tout la participation, hein, au stéréotype. Quatrième opération, passer du cas particulier à la catégorie. En gros, on pourrait dire, par exemple, envisager la rime comme le représentant catégoriel, c'est-à-dire un exemplaire typique d'une catégorie qui est employée comme représentant de toute la catégorie, hein, où la rime devient le prototype ou le représentant de la catégorie générale de la dimension sonore. Les élèves qui disaient, ben oui, quand même, moi j'aime beaucoup les poèmes avec les rimes, puis il y a quand même aussi tout le souvenir de la maternelle, des comptines, enfin tout ce bagage-là enfantin, mais d'accord, c'est pas spécialement à casser ou à supprimer, mais on peut le replacer dans un critère plus vaste, hein, dans une catégorie plus vaste, qui est la dimension sonore en poésie. Cinquième opération, introduire du jeu, de la surprise ou de l'étrange. Le stéréotype, il surprend pas d'habitude. Et bien justement, essayer de dire aux élèves, ben là on a quelque chose, tout le monde s'y attend, et bien on va essayer de le détourner un tout petit peu pour introduire de la surprise ou de l'étrange. Je vais plutôt prendre cet exemple là. Un élève qui dit à la fin, mais moi je vais essayer de faire ça, hein, et regarder ce que ça donne. Donc il dit, moi je vais garder l'idée des rimes, je vais garder l'idée des vers, du titre et de la signature de l'auteur, mais je vais essayer de faire rigoler, parce que c'était ça, faire rigoler mes copains et la chercheuse là qui est au fond de la classe et l'enseignant. Et du coup, voilà ce qui produit. Hein, donc on est bien sur cet effet de jeu. Hein. Blabla, moi je suis dans une réunion très importante, alors blabla. Moi je suis dans le bus, alors blabla. Moi je suis dans la rue, alors blabla. Mais là je suis chez moi, alors chut, chut. On voit bien ce décalage. Et là, pour le coup, c'est totalement réussi, hein, par rapport à l'objectif de créativité, hein, de diversification. Sixième opération, faire prendre conscience du stéréotype et de ses effets. Je pense que je l'ai déjà commenté. Et il faut bien se dire que prendre conscience qu'une représentation est stéréotypée, ça permet aussi à l'élève de comprendre pourquoi il a tendance à y revenir. Et pourquoi... si on lui demande d'écrire sur la mer, ben la première idée qui va lui venir, c'est peut-être encore une fois les vacances, le soleil, qu'il aura encore envie de dire ça. Mais peut-être que progressivement, il va du coup le savoir, le comprendre et pouvoir se dire, mais moi j'ai quand même envie de parler de ça, mais je vais essayer de le faire un petit peu différemment, hein, de mettre en place ce travail-là de réflexion. Septième opération, problématiser et intégrer d'autres repères culturels et historiques qui sont référents pour la discipline, et notamment c'est en travaillant, comme je l'avais évoqué, sur des poèmes, des corpus de poèmes qui ne répondent pas aux stéréotypes des élèves, c'est-à-dire faire lire des poèmes sur la mer, hein, qui ne parlent pas de la mer comme l'ont fait les élèves, faire lire des poèmes qui ne respectent pas les critères stéréotypés vus par les élèves. Et donc, du coup, en faisant ça, hein, et en donnant aussi aux élèves des petits textes, des petits témoignages où des poètes expliquent comment ils font pour écrire des poèmes, qu'ils reprennent des vieux thèmes, qu'ils essaient de les revisiter différemment, on invite quelque part le poète, son œuvre, sa pratique sont invités dans la classe et viennent nourrir les savoirs sur l'écriture poétique et les représentations sur la poésie. Avec une condition, c'est ça que je disais, la problématisation, c'est quand même que dans la première classe, l'enseignant avait donné certains poèmes à lire qui étaient tellement opposés aux représentations que se faisaient les élèves de la poésie, que pour certains, vraiment, malgré le fait que ça venait d'un recueil de poésie, ça ne pouvait pas être de la poésie. Et donc, c'est pour ça que je dis percevoir dans ces poèmes un problème d'interprétation non rédhibitoire, ou surmonter le problème du poème. Parce que si c'est trop problématique, l'élève y refuse et construit pas. Donc il y a quand même cette zone-là de problématisation il faut que l'enfant entre dans le problème du poème que peut poser le poème, dans cette liberté, hein, dans cette transformation possible. J'en reviens au huitième, non plus à la distanciation, mais à la huitième condition pour faire du stéréotype un outil d'enseignement et d'apprentissage de l'écriture. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans mes lectures, c'est que quand je lisais des choses sur la distanciation, c'était souvent donné comme quelque chose qui n'était pas compliqué, qui se faisait facilement dans les classes. Mais franchement, j'en suis pas sûre du tout. Bon, du coup, je vous ai mis une citation qui vient de Stevenson qui dit « De nombreux poèmes sont typiques, au sens où ils ont des valeurs élevées, pour beaucoup de propriétés. Donc lorsque nous apprenons à apprécier, à critiquer ou à écrire des poèmes, nous devons développer une sensibilité spécifique pour chacune des propriétés correspondantes. Si nous ne devenions sensibles qu'à certaines caractéristiques d'entre elles, aux dépens des autres, nous nous comporterions de manière peu productive car nous passerions à côté de certains aspects de poèmes typiques qu'autrement nous aurions pu apprécier, au prix d'un effort supplémentaire minime. » Et moi, cette idée-là, au prix d'un effort supplémentaire minime, ça ne collait pas du tout avec les observations faites dans les classes. Et vraiment, on peut se dire que toutes ces opérations de distanciation pointées, le fait de relativiser, de multiplier, de distancier, de problématiser, d'interroger, vraiment, c'est long et complexe pour les élèves. Que du coup, il ne faut pas du tout minimiser ce travail-là, parce que sinon, le risque, c'est de pas faire bouger l'élève par rapport aux stéréotypes. Il va peut-être pour faire plaisir à l'enseignant dire oui, mais après, peut-être un mois après, une année après, on ne remarquera pas d'évolution. La neuvième condition, c'est prendre appui sur la construction de la notion de stéréotype avec prudence. Parce que quand même, surtout dans la classe 1, où l'enseignant a donc essayé vraiment de faire réfléchir les élèves sur ce qu'était un stéréotype, au final, si les élèves, après, un petit peu comme en grammaire, ils sont capables de donner la définition d'un stéréotype, ça dans les deux classes, ça le faisait, après, en écriture, pour que cette définition, cette construction de la notion du stéréotype les aide à écrire, c'était beaucoup plus complexe. C'est normal, c'est des élèves aussi qui ont 10-11 ans, donc c'est un niveau de complexité encore supplémentaire. Donc faire de la construction de l'objet stéréotype un outil d'écriture, et là on voyait même que pour certains élèves, c'était non pas un outil, mais c'était contre-productif. Donc certains élèves avaient retenu que les stéréotypes, par exemple, c'était pas toujours vrai, ils disaient pas toujours la vérité, parfois ils schématisaient, ils réduisaient, et du coup, dans leurs commentaires, ils disaient « Nous, on n'a pas voulu utiliser de stéréotypes parce qu'on voulait dire des choses vraies ou écrire des choses vraies. » Et là, on voyait que finalement, la construction de la définition de la notion du stéréotype Ouais, je peux pas dire autrement que était contre-productive en écriture et introduisait de nouvelles contraintes et de nouvelles limitations pour les élèves. Voilà. Bon, alors c'est peut-être aussi lié à la manière dont ça a été travaillé dans la classe, mais quand même, on voit bien que c'est très complexe pour les élèves de passer de l'un à l'autre. Et le dernier critère, et puis je te passe la parole, c'est de travailler au plus près du matériau langagier. Parce que dire aux élèves, ben oui, ben là, tu dois écrire de façon plus imaginative ou rendre ton texte plus poétique, hein, ou bien même introduire des images pour rendre ton texte plus poétique, ça n'aide pas spécialement les élèves parce que concrètement, ils ne savent pas comment faire. Hein. Je vais vous donner un exemple. Donc l'élève, qui, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu petit, les pêcheurs, donc le texte de l'élève, c'était « Les pêcheurs vont pêcher à marée haute ». Même pour moi, c'est pas... Je devrais avoir le texte, je ne l'ai pas. Enfin bon, voilà, l'élève produit un texte, les filets ainsi que... Il lance les filets ainsi que la canne à pêche. Plus tard, il relève la canne à pêche. Ah, merci. Mais un filet est accroché au coraux, alors il tire de toutes ses forces, mais le filet se décroche des coraux. Comme ce filet est resté plus longtemps sous l'eau, il a plus d'animaux marins, comme des crevettes, des crabes, des poissons. Le lendemain matin, il vend quelques animaux. C'est le texte, ça n'a pas été toiletté. Donc c'est la, et l'enseignant, donc on est revenu aussi, je le donne, c'est pas du tout une critique de l'enseignant, mais c'est parce qu'on est revenu avec les enseignants dans la discussion là-dessus. On était assez étonnés que les élèves les plus en difficulté modifiaient très peu leur production, malgré les commentaires et le travail fait. Et on s'est dit qu'une des raisons, c'était ça. Regardez le commentaire, tu racontes, ce n'est pas un poème. Et en fait, je comprends très bien pourquoi l'enseignant dit ça. Et c'est justifié. C'est vrai qu'on a l'impression que l'élève raconte, que le texte est trop narratif et qu'on passe à côté de certains indices de poéticité. Mais en même temps, l'élève qui reçoit ce commentaire-là, ça ne lui dit pas concrètement avec quel matériau langagier il peut modifier son texte. Et donc du coup, c'est vrai que pour les élèves les plus en difficulté, il ne faisait pas le lien entre ce commentaire global et concrètement pour écrire comment je peux faire pour faire avancer mon texte. Du coup, l'idée de l'importance vraiment de travailler au plus près dans ce qu'on appelle le souci de la langue. Il y a un colloque qui va avoir lieu sur ce thème-là à Genève en mars, mais au plus près du souci de la langue et des unités du matériau langagier.